Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B.
Bonjour tout le monde, c'est une nouvelle émission dans laquelle nous allons parler des livres. Je suis en face donc de Virginie de la librairie Le Fire qui est au rayon littérature générale. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Je suis contente de te recevoir aujourd'hui, c'est un baptême de feu pour toi.
Hein? C'est la première fois.
Ouais, la première fois de radio tout court.
La première radio.
Le mois de janvier est aussi un mois de rentrée littéraire.
Depuis quelques années, la rentrée de janvier progresse. Et cette année, je crois qu'on arrive à un chiffre de plus de 500 ouvrages sur janvier-février. Donc c'est en fait plus que septembre.
Ah bah ouais.
Ouais.
Ah bah ça a carrément inversé le processus.
Alors le processus n'est pas inversé, mais en tout cas, les éditeurs essayent de vraiment créer deux temps forts, deux rentrées successives.
Ouais.
Et il faut suivre en termes de lecture.
Ouais, c'est-à-dire que tout ça est un petit peu ébranlé aussi, hein, parce que mois d'avril, il y a pas mal de parutions.
Bon, on va dire que ça s'arrête jamais.
Ouais.
Effectivement, après la rentrée de janvier, ce sera les livres plutôt de ce qu'on appelle les livres du printemps, donc des livres en général un peu plus légers qui vont préparer l'été. Et puis, ce sera les livres de l'été, effectivement. Et puis, on repart sur une nouvelle rentrée après, en septembre.
Et on sent bien la différence saisonnière, c'est-à-dire dans les livres, est-ce qu'il y a, des romans plutôt digestes pour la période estivale, on va dire, avec des choses un peu plus joyeuses, ensoleillées?
Oui, tous les ans, on découvre, à partir du printemps, il y a effectivement toute une salve de romans beaucoup plus légers, plus ensoleillés, on va dire, qui sortent à cette période-là.
Très difficile donc pour vous de faire une sélection, de nous apporter comme aujourd'hui ici, dans le nombril de Vénus, trois livres.
Alors difficile, c'est toujours difficile de choisir, hein, comme on dit, choisir c'est renoncer.
Oui.
En même temps, il y a des auteurs qu'on connaît, qu'on est ravis de retrouver, d'autres qu'on découvre, et c'est toujours, c'est toujours une joie avant tout de parler des livres.
Et comment vous faites votre choix alors pour lire?
C'est une recette un peu savante, on va dire, entre ce qu'on connaît déjà des auteurs, ce qu'on est content de retrouver, ce qu'on connaît aussi des éditeurs. Nous, on voit des représentants qui viennent nous parler des livres en amont, donc de ce qu'ils ont pu nous dire, de la confiance ou non qu'on leur accorde. Et après, c'est notre curiosité qui va nous mener sur un livre plutôt qu'un autre, etc.
Et j'imagine aussi les échanges avec les clients.
Et les échanges avec les clients, avec les collègues, etc.
Qui vous sentez, de quoi ils ont envie.
Exactement.
Et là, les trois livres que tu as sélectionnés pour nous raconter aujourd'hui, c'est quoi?
Alors, il y a La Longe de Sarah Jolien-Fardel aux éditions Sabine Vespisser. Il y a Florence Sévos, Le Perdant Magnifique aux éditions de L'Olivier. Et il y a un premier roman traduit d'italien, Uva Spina de Monica Assito aux éditions du Sous-Sol.
Sarah, elle a sorti un livre il n'y a pas si longtemps, je crois, il y a un an ou deux.
Il y a deux, trois ans, il me semble.
Ah, quand même, 2023.
J'ai plus la date
2022,
en tête,
oui.
Mais oui.
Et c'était elle était dure. Hein.
Sa préférée.
Ouais.
Elle était dure, effectivement, mais j'avais beaucoup
oui,
aimé.
Oui, oui, il était très, très bon. Hein. C'est une écrivaine confirmée, on va dire. Est-ce que là, elle est un peu plus légère?
Non.
Non,
d'accord. C'est pas du tout l'univers de Sarah, on va dire.
Non, je crois qu'elle aime les choses un peu,
hardcore,
un peu fortes.
Ouais. Et qu'est-ce que ça raconte alors?
Alors ici, la longe du titre, la longe, c'est la corde qui retient Rose, qui a 43 ans, qui est enfermée dans de mystérieuses circonstances à l'intérieur d'une chambre aux parois boisées, nous dit le texte. La longe, c'est aussi l'entrave par laquelle on souhaite la protéger d'elle-même, et c'est enfin le lien qui doit la mener hors de son chagrin et de sa colère vers un apaisement, on va dire, possible. Elle est donc enfermée, isolée, entravée, au cœur des montagnes valaisannes, qui est donc la région de Sarah Jolien-Fardel.
C'est son scénario de prédilection.
Et elle va se confronter à son deuil et va interroger le passé pour comprendre les circonstances et pour questionner aussi les failles qui ont mené vers ce drame. Elle se rappelle alors son enfance, une enfance ordinaire, faite de joie, de rupture, de deuil, puisqu'elle avait perdu sa mère aussi dans l'enfance, dans ces paysages féeriques de montagne. Elle se remémore aussi les figures tutélaires de ses deux grands-mères, qui l'ont toujours protégée et qui l'ont toujours encouragée, sachant que ces deux femmes étaient extrêmement différentes, mais elles l'ont portée, elles l'ont fait grandir, chacune à leur manière. Enfin, elle se rappelle aussi l'amour indéfectible de Camille. Camille, c'était l'ami d'enfance, le petit amoureux, et puis ils s'étaient perdus de vue et vont se retrouver au début de l'âge adulte, et là, ils vont se marier et avoir une petite fille, Anna. Alors, je ne vais rien dire de plus sur l'histoire, si ce n'est, là je vous ai planté vraiment le décor et les personnages, si ce n'est que Sarah Jolien-Fardel donc, nous livre ici un texte que moi j'ai trouvé vraiment saisissant, un récit qui passe de l'ombre vers la lumière et qui souligne surtout l'importance des mots et de la littérature pour échapper aux ténèbres, concevoir que la souffrance, le deuil, qui habite, on va dire, une multitude d'histoires et d'existences, nous permet malgré tout de saisir encore la beauté quand il y en a.
La souffrance du personnage principal est une souffrance sous-jacente ou c'est quelque chose qui surgit de manière complètement abrupte ?
Alors, elle surgit après un drame, mais je vais essayer de ne pas le révéler.
Oui, on ne va pas tout spoiler, d'accord.
Voilà. Alors, ça survient après quelque chose, effectivement, qui va être une véritable rupture dans sa vie.
Et est-ce qu'on peut imaginer aussi que ce décor, les montagnes, c'est presque un personnage à part entière de ce livre ?
Alors, le paysage, effectivement, est très important dans ce livre-là et apporte une sorte à la fois de protection et en même temps, C'est vraiment un paysage féerique tel qu'elle le décrit. On a très envie de gambader avec elle dans ces montagnes, quelles que soient les saisons. Et c'est peut-être pas un personnage à part entière, mais c'est un décor qui est très présent.
Et là, on va trouver encore une écriture assez dynamique, parce qu'elle est très dynamique, très ciselée, Sarah.
Elle a effectivement une écriture très fluide, très dynamique, très rythmée, où il y a très peu de temps mort. Et effectivement, on retrouve ça. La Longe de Sarah Jolien-Fardel aux éditions Sabine Vespisseur.
Madame, monsieur, j'ai glissé Madame, monsieur, j'ai glissé. De ciel embrasé de Canadair. Madame, monsieur, j'ai glissé. Madame, monsieur, j'ai glissé dans la diagonale, sioux, dans la boue, dans la lune, Dieu des hiboux, dans la rose blanche de Corfou, dans la tombe marine de Borbou, j'ai glissé dans la musique d'os des sous, dans un trou, dans une pente chaude, qu'importe où, dans le ramdam d'une tour, dans la gueule d'ange d'un loup. J'ai glissé dans la fraîcheur de l'aube à mon cou, bout à bout, bout à bout, bout à bout. J'ai glissé. Je n'ai plus de paix, de paix, de pays. Me donner du pain, m'en faire don. Dans la rose blanche de Corfou. fin du sable sale, fin des tessons, fin de ma fin d'animal, fin de maudire les saisons. Madame, monsieur, je me suis redressé. On annonce un été de Canada.
C'est presque un peu de la provoque, en fait, Virginie. Nous sommes ensemble ici sur Canal B en train de parler des livres, des livres qui sont parus en ce mois de janvier pour la rentrée de janvier, qui est tout aussi importante d'ailleurs que cette rentrée du mois de septembre. On a entendu donc Bertrand Belin. J'ai eu la chance et le bonheur de lire La Figure, qui est son livre qui vient de paraître également chez POL, et c'est absolument magnifique. Bon, ce n'est pas dans ta liste de ton choix aujourd'hui. Mais il y a eu Camille Laurence aussi, on était en train de parler avec son livre sur l'emprise. Il est juste à côté de mon lit et je peux te dire que dès que j'ai 5 minutes, je m'y mets. Tu l'as bien aimé, toi.
J'ai adoré.
Ouais. Mais là, il y a un deuxième que tu vas nous raconter, alors voilà. C'est lequel?
Alors, je vais vous parler de Florence Sévos pour Le Perdant Magnifique aux éditions de l'Olivier. Là, c'est l'histoire de Jacques. Jacques est un original, un homme qui édicte des règles sur tout. Il ne supporte pas le relâchement, il ne supporte pas les approximations, il est déraisonnable, tyrannique, menteur parfois, instable souvent, incapable de se plier aux conventions, et ses agissements frisent parfois la folie. Souvent même, il fait honte à ses deux belles-filles, Irène et Anna, par des comportements totalement inappropriés. Par exemple, quand elles sont avec des amis dans leur maison familiale du Havre, il déboule en pyjama, des pyjamas toujours de couleur criarde, et il interpelle ses amis avec des propos, un vocabulaire totalement inadapté. Et pourtant, quand il faut prendre parti, quand Jacques est critiqué, attaqué, ou que leur mère menace de le quitter, Irène et Anna choisissent toujours de le protéger. Anna, qui est la narratrice, revient sur ses années de vie commune, 6 années extrêmement éprouvantes, où en dépit de ses travers, Jacques savait aussi magnifier le quotidien, tenir à distance la routine et faire en sorte qu'elle et sa sœur se sentent les enfants les plus importants du monde, des personnes exceptionnelles. Anna raconte donc cet homme fantasque qui a été un homme d'affaires au début de leur vie commune et qui termine pratiquement clochard, malade, seul. Et elle alterne entre un regard d'adulte, donc un regard distancié, et les émotions de l'enfance, donc prises sur le vif. Alors moi, ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est que Florence Sévos, je trouve, écrit merveilleusement bien sur l'enfance, un territoire d'ailleurs qu'elle semble ne jamais avoir quitté, en tout cas dans ses écrits, et l'enfance qu'elle ne cesse d'interroger, tant dans sa légèreté, son innocence, que dans sa gravité. Et le portrait de cet homme, donc, est surtout raconté par les détails, toutes les petites choses, les souvenirs qui sont restés, et qui suscitent à la fois l'empathie, le rire aussi, c'est aussi un livre dans lequel on rit, et le malaise. Jacques est à la fois un cadeau de la vie, par son amour, ses largesses, son grain de folie, autant qu'un poids, par son instabilité, sa déraison, et son mal-être, comme s'il était poursuivi par une ombre qui menaçait de tout engloutir. Et vraiment, moi j'ai trouvé que Florence Sévos était une portraitiste émérite, et c'est un livre qui m'a vraiment surprise et que j'ai beaucoup beaucoup aimé.
C'est super chouette de t'entendre parler, ça donne vraiment envie.
Il faut savoir que Florence Sévos, elle écrit beaucoup pour la jeunesse. Elle a fait paraître plusieurs romans aux éditions de l'École des loisirs, et c'est vraiment un territoire qu'elle explore assez souvent. Et elle se met souvent elle fait parler en tout cas soit des enfants, soit des adolescents. Mais là, c'est la narratrice donc est une adolescente, du moins au moment des faits. Et elle décrit en fait ce beau-père qui était un homme complètement fantasque.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre cette adolescente et le regard qu'elle a porté sur ce personnage et sa vie d'adulte, en fait, le regard qu'elle pourrait porter autant qu'adulte?
Pas tellement. Mmh. Ça reste un regard ambivalent, à la fois lorsqu'elle était enfant et lorsqu'elle est adulte. C'est quelqu'un qui l'a à la fois fascinée et en même temps qui l'a irrité au plus haut point, parce que c'est quelqu'un aussi qui les a mis en danger parfois.
J'entends bien. Donc en fait, elle avait aussi quand même à garder la tendresse.
Oui, la tendresse est toujours là.
Bonjour sur Canal B, nous sommes en train de parler des livres. Eh oui, c'est le Nombril de Vénus et je suis en compagnie de Virginie de la librairie Le Fire avec des sorties du mois de janvier, 3 livres. Le troisième, elle va nous raconter maintenant. Virginie, c'est ton coup de cœur du mois de janvier.
Exactement. Alors, il s'agit pour le troisième de Uva Spina de Monica Assito aux éditions du Sous-Sol. C'est un premier roman traduit de l'italien par Laura Brignon. Uva Spina, c'est un roman qui fait à la fois le portrait d'une ville, Naples, et d'une famille, totalement fantasque qui s'entre-dévore. Dans cette famille, il y a d'abord Graziella, la mère, surnommée aussi la dépareillée, qui, tous les mercredis soirs, met en scène sa mort, au moment où son époux, Pascale Riccio, s'apprête à sortir pour rejoindre ses amis au cercle nautique dont il est le président. Graziella vient des quartiers populaires de Naples, c'est une ancienne pleureuse, ces femmes qui pleurent sur commande dans les enterrements. Et au temps de sa splendeur, de sa jeunesse, elle possédait une sensualité un peu sauvage. Et c'est comme ça qu'elle a séduit son futur mari, donc Pascale.
En train de pleurer et de faire la belle en même temps.
Okay. Lui, c'est le fils d'un notaire qui avait pignon sur rue et qui a été d'ailleurs placé à la présidence du cercle nautique grâce à son père, parce que c'est un homme, c'est un peu un bon à rien, c'est un incapable, un homme veule, lâche, feignant, uniquement préoccupé par ses plaisirs. Et donc ces deux-là se sont fréquentés, puis se sont mariés et ils ont fondé une famille. Graziella a ainsi quitté les quartiers populaires de Naples Et pour les quartiers donc du front de mer, plus cossus, où sur son balcon, elle fume cigarette sur cigarette. Mais si elle a le sentiment d'être enfin parvenue à quelque chose, ou en tout cas de s'être extraite de quelque chose par ce mariage, la mélancolie, le manque d'amour, la tristesse continuent de la ronger. Pascale et Graziella ont eu 2 enfants, Uva Spina, un garçon qui est l'aîné, et Minuccia, leur fille cadette. Uva Spina, lui, tient son surnom d'une petite tache qu'il a sous l'œil gauche, en forme de baie, donc l'Uva Spina, qui est une sorte de groseille. Et c'est un garçon discret, à la beauté délicate, qui possède une vraie grâce. C'est également un garçon qui rase les murs, qui tente de se faire oublier, qui vit dans l'ombre, pour ne pas subir les moqueries de ses camarades de lycée qui le traitent de féminiello. Et de fait, Uva Spina aime les garçons, ce qui est une chose impensable dans cette famille, dans ce milieu où la masculinité est une valeur primordiale. Et si Uva Spina veut rester dans l'ombre, c'est aussi pour échapper à Minuccia, sa sœur, avec qui il a une relation extrêmement trouble. Et elle, c'est vraiment une jeune femme étrange, volcanique, voire mauvaise, qui est en proie, parfois, à des accès de rage totalement incontrôlables, notamment lorsque la folle toupie s'empare d'elle.
La folle toupie ?
La folle toupie,
ah, tout à fait.
C'est le nom que toute la famille, tout leur entourage, en tout cas, donne à ces crises qui la saisissent. Et, ou plutôt, elle va dévaster tout ce qui l'entoure.
On a une marque de temporalité ? On sait à quelle période ça s'est déroulé, cette histoire ?
Rien n'est dit dans le roman. Après, on peut imaginer que c'est il y a 10-20 ans, à peu près.
Ah, ok. Très contemporain.
Voilà, c'est un peu au pifomètre quand même, mais oui, c'est à peu près ça. Je voudrais simplement dire que c'est un récit, en fait, qui est plein de cris, de rage, de sang, de jalousie, de trahison, mais d'amour aussi.
Latino, en tout cas.
Exactement. C'est un livre qui est, moi, que j'ai trouvé fascinant. J'ai absolument adoré ce livre. En plus de l'histoire de cette famille, il y a vraiment des très, très belles pages sur Naples. Naples, dans toutes ses ambivalences, dans tous ses contrastes aussi. Et voilà, c'est vraiment, moi, un de mes gros coups de cœur de cette rentrée.
Et ça doit être quelque chose qui réchauffe, en cette période hivernale. Lire des romans chauds.
Le soleil darde.
Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y avait quand même, quand ils se sont rencontrés, là, le couple
Graziella et
Pascale. Avant, c'était comme un ballon de baudruche, en fait. Ils se sont rencontrés, c'était fou, et puis ça s'est tiolé.
On sent vraiment que c'est la sensualité, le sexe qui les a rapprochés, une fois que le temps, la routine s'est installée, que les corps se sont fatigués. Effectivement, ça s'est affaissé comme un ballon de baudruche.
Ah, quel dommage. Et cet homme, il n'a pas l'air très, très chouette, en fait.
Non, c'est vraiment, c'est ce que je disais, un lâche.
C'est un gros con, quoi.
Oui, on peut dire ça comme ça. Je vais dire un mot à rien.
Ouais, voilà. Oui. Et le fiston dans tout ça, perdu dans cet univers complètement.
Alors lui, il va essayer, j'ai dit que le début, j'ai planté aussi le décor, mais effectivement, il va essayer de s'extraire de ça, il va essayer de mener sa barque, de trouver sa voie. Il va faire des rencontres qui vont lui ouvrir des perspectives, des horizons. Mais je vous laisse découvrir, parce que c'est vraiment un roman qui se découvre.
Et c'est un roman dense ?
Oui, extrêmement dense.
Ça nous amène loin dans l'histoire de cette famille ?
C'est sur quelques années, mais l'écriture aussi est assez fascinante. Il y a quelque chose de très organique dans l'écriture de Monica Assito. J'ai lu dans pas mal d'articles de presse qu'on l'a comparée à Elena Ferrante. Alors, les Inroc ont mis ça, et entre parenthèses, en mieux.
Non, mais bon, tant mieux.
Moi, j'ai pas trouvé, en fait, cette similarité. Ça m'a fait presque plus penser à un film d'Ettore Scola comme Afro Salé Méchant, pour le côté féroce.
Non, mais là c'est top, là c'est la référence.
Alors, c'est pas tout à fait la même chose.
Oui, parce que là on est dans la misère.
Voilà, c'est ça. Il y a pas cette. Enfin, encore qu'il y a une certaine misère, mais pour le côté féroce, rustre, etc. Mais là avec une recherche d'amour en plus.
Et avec des conditions, quoi. Ça se passe quand même dans un joli balcon face à la mer.
Oui, mais Graziella a quand même quitté vraiment les bas-fonds de Naples. Ouais. Et c'est très présent aussi dans le roman.
On le sent.
Voilà.
Maintenant, vous savez, il y a plein de livres à lire en cette rentrée de mois de janvier.
Il y a plein de livres, des très bons. Et vraiment, je crois que c'est une belle rentrée.
C'est la fin de l'émission Le nombril de Vénus sur Canal B.
Ok. Ce qu'il nous faut pour commencer, c'est une poêle bien profonde. À feu très doux, vous en verrez. Trois gousses d'ail en offrande.
Et voilà, Virginie, merci beaucoup d'être venue ici à Canal B.
Merci.
Est-ce que ça a été ce baptême de feu pour toi ?
C'était très bien.
Ah, merci, génial. Donc, on va te réentendre bientôt. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Allez, bisous, bye.
Les retirer sans trop tarder. Quatre verres de semoule, les faire dorer. Dans un verre d'eau, les séparer. Deux heures seront nécessaires pour qu'apparaissent les boulettes. Continuez de remuer. Continuez de remuer. Continuez de remuer. Sur France Culture, vous l'entendez. C'est bientôt l'heure d'arrêter. Coupez le gaz. Montez le son. Servez vos gaz de nuit. Avec amour, dégustez-les.